Shalom tout le monde. Henri Bergson. Comment ? C'est un lycée, effectivement, nommé du nom d'un célèbre philosophe d'origine juive, mais très éloigné de ses racines, qui vivait en France. Et Henri Bergson, qui est un grand philosophe, a affirmé qu'il y avait une supériorité spirituelle et morale du christianisme sur le judaïsme. Pour raison très simple, c'est que le judaïsme s'occupe uniquement, parle d'un Dieu qui ne s'occupe que de son peuple, un Dieu jaloux. Et par contre, le christianisme a étendu le champ de ce Dieu à l'ensemble de l'humanité. Et donc, c'est une religion véritablement universelle. Voilà, ça c'est l'affirmation de Bergson. De même, j'ai rencontré un juif américain influent dans le monde, dont je ne peux pas trop citer le nom, mais qui m'a raconté que dans une de ses rencontres qu'il a eues au Pakistan avec un des dirigeants religieux musulmans, le musulman en question lui a dit « Pourquoi est-ce que vous, les juifs, vous ne faites pas de prosélytisme ?» Réponse du juif américain influent dont je ne peux pas dire le nom. C'est parce que le judaïsme est un club. Et dans un club, on n'est pas obligé d'entrer. On peut très bien être de l'extérieur. Réponse du dirigeant spirituel musulman pakistanais. Si c'est comme ça, ça ne fait que confirmer l'argument que nous enseignons dans nos madrasas, comme quoi le judaïsme est faux, parce que s'il était vrai, il s'occuperait de diffuser sa doctrine. Vous voyez donc, le même argument se retrouve chez Bergson, occidental, chez les musulmans orientaux, et on peut dire que c'est effectivement la base originelle du christianisme. On peut donc réagir de deux manières. Dire, tiens, c'est vrai, ils ont raison. Nous ne sommes pas universels. On s'en fout complètement des autres. Deuxième possibilité de dire, mais non, ils sont complètement à côté de leur pompe, ce qui est absolument la vérité. Le judaïsme est fondamentalement de vocation universelle, puisque, comme vous l'avez appris, lorsque nous avons étudié le livre de Bereshit pour Abraham Avinu, il est dit, dès le départ, dans son élection, « Venivrechou becha kol mishpurota adama », c'est-à-dire, par toi seront bénies toutes les familles de la terre, et donc il y a une finalité certainement universelle au judaïsme, qui est imprimée dès son origine, et qui est restée indélébile, quelles que soient les vicissitudes des persécutions au cours des générations. Voilà. Donc ça c'est un premier point qu'il faut mettre en évidence, simplement ce qu'il faut comprendre, quelle est la nature de l'universel juif, qu'est-ce qu'il veut dire ? Voilà, c'est ça que nous allons mettre en place, là. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois si la clim marche. À mon sens, elle marche. Donc, dans ce cas-là, on pourrait fermer les fenêtres. Voilà. Enfin, ça, c'est à vous de décider. Voilà. Bon. Donc, il y a une vocation universelle. J'aimerais comprendre en quoi elle consiste. Elle consiste tout d'abord, non pas en cosmopolitisme, comme vous le savez, puisque il ne s'agit pas d'abolir les différences entre les nations. Ah, vous avez fermé la climatisation ? Elle ne marche pas. Ah bon, dans ce cas-là, il vaut mieux peut-être ouvrir un peu la porte. Ah, ça permet de respirer. Merci. Et donc, il ne s'agit pas de, par exemple, de faire du prosélytisme dans le sens classique, dans le sens où il s'agirait de transformer tout le monde en juif. Et ce, pour une raison très simple. Étant donné que le judaïsme a une coloration nationale, il serait injustifié d'imposer une identité nationale à ceux qui n'en font pas partie. Par exemple, nous avons l'exemple du colonialisme. Le colonialisme a imaginé qu'on pouvait transformer tous les peuples de l'Empire français en français, et tous les peuples de l'Empire britannique en britannique, etc., etc. C'est-à-dire, c'est l'imposition d'une identité nationale à d'autres identités, c'est ce qu'on appelle du colonialisme ou de l'impérialisme. Donc c'est absolument problématique. Il y a parfois même ce qu'on appelle du paternalisme, ce qui n'est pas tellement différent. Il y a, par contre, dans le projet de la Torah, « Venivrichu bechakol mishpechota adama », par toi seront, on l'avait étudié ce terme-là de « Venivrichu marcoté », l'ensemble des familles de la terre, c'est-à-dire que chaque famille puise dans l'identité d'Israël ce qui lui permet d'arriver à être elle-même. Donc de ce point de vue-là, le judaïsme est absolument missionnaire, il a pour but de transformer les Japonais en Japonais, et de transformer les Belges en Belges, si ça existe, etc. C'est-à-dire que chaque nation doit assumer son identité de sainteté collective par rapport au Créateur, ce qui n'est pas encore réalisé. C'est l'idée qu'il y a une sainteté au niveau de la collectivité nationale, c'est une idée qu'on ne trouve que pour l'instant que dans le judaïsme, et qui est censée un jour être l'héritage de l'ensemble des nations, comme le dit le prophète Zecharia, Venilvu goyim rabim el Hashem bayomahu, de nombreuses nations s'associeront à Dieu en ce jour, veayuli leam, et seront pour moi un peuple. Donc cette idée qu'il y a un peuple de Dieu, qui pour l'instant c'est le peuple d'Israël, doit avoir des peuples de Dieu, dont nous sommes le premier-né. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes, et ça nécessite évidemment de ne pas essayer de s'imposer aux autres. D'un autre côté, nous avons un message qui concerne l'humanité, il faut savoir quel est ce message. Il faut savoir encore autre chose, une donnée historique importante, c'est que pendant le temps de l'exil, et encore plus dans le temps de la persécution, nous étions dans l'impossibilité de pratiquer cet enseignement. Mais c'était quand même étudié dans le Bet HaMidrash, c'est-à-dire dans la Gemara, dans la Mishnah, même dans le Tanar, dans les Poskim. Vous avez une série énorme de considérations sur le statut, sur l'enseignement, sur l'identité des différentes nations, ce que nous avons à leur donner, ce que nous avons à prendre d'eux, etc. Et c'est intéressant de voir qu'au sein de la persécution, il y avait des rabbins qui réfléchissaient très sérieusement pour savoir quel est le statut positif de celui qui me persécute. Vous avez compris le problème? Enfin, comment? Tous les rabbins, ça fait partie du travail des rabbins d'étudier ces choses-là. Les rabbins doivent étudier toute la Torah, et toute la Torah implique également la législation noachide, dont nous allons parler maintenant. Alors, il y a, dans la tradition rabbinique, et là, je vais rentrer directement dans la tradition talmudique et rabbinique, je sais qu'il y a beaucoup de critiques autour de ça, mais il n'y a pas le choix, étant donné que j'appartiens à la tradition rabbinique, la preuve en est là, et talmudique, la preuve en est là, donc on va parler de la tradition talmudico-rabbinique. La tradition talmudico-rabbinique considère qu'il y a différentes sortes de non-juifs. Il y a différentes sortes de juifs, Cohen, Lévi, Israël, Mabla, etc. Mais il y a différentes sortes également de goyim. Alors, qui sont-ils ces différentes sortes de goyim? Il y a des goyim extrêmement méchants, dont la Gemara dit beaucoup de choses très graves. Et puis il y a des goyim extrêmement gentils, dont la Gemara dit des choses extrêmement gentilles. D'accord? C'est ça qu'on les appelle les gentils. Et il y a pour cela, si vous voulez, des déterminations de type juridique, il y a des halachot, bien qu'en vérité, sur le terrain, c'est beaucoup plus nuancé que ce que je vais dire. Mais il y a tout d'abord ce qu'on appelle des fondements de halacha. C'est comme ça, c'est pas autrement. Par exemple, pour vous donner un exemple de ce que c'est une différence entre la halacha et la nuance pratique, par exemple, on dit voilà, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. N'est-ce pas? Un homme peut témoigner, une femme ne peut pas témoigner. D'accord? Ça, c'est le principe. Après, nous avons une série de cas où la femme peut témoigner et où l'homme ne peut pas, etc. D'accord? C'est-à-dire que vous avez des grands principes de base et après, dans l'application pratique, il y a énormément de nuances qui, elles aussi, sont délibérées dans la halakha. Donc, ne vous effrayez pas quand je vais vous dire ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut savoir que sur le terrain, il y a énormément de nuances. Surtout quand une halakha est souvent appliquée. Par exemple, la Torah a dit tu ne cuisineras pas un agneau dans le lait de sa mère. C'est écrit trois fois dans la Torah. Ça fait donc trois versets, mais c'est à chaque fois la même chose, n'est-ce pas? Vous regardez maintenant dans le Shulchan Aruch, Ilchot Basar Bechalav, les règles de lait et de la viande. Ça, vous avez des bibliothèques entières. Vous commencez d'abord par une étagère. Tout ça à cause d'un verset. D'accord? Pourquoi ? Parce que c'était quelque chose de très pratique, quelque chose qui était très courant. Par contre, les halakhot dont nous allons parler maintenant sont des halakhot extrêmement rares, qui n'ont jamais, presque jamais été appliquées pendant le temps de l'exil. Et donc la littérature autour de ça est relativement restreinte et elle ne comprend toujours pas forcément les nuances sur le terrain. Voilà. D'accord ? Alors, de quoi s'agit-il ? Il y a toute une soulia extrêmement longue dans le traité de Sanhédrin au sixième chapitre concernant ce qu'on appelle les lois des Béné Noirs. Les Béné Noirs, ça veut dire les hommes, les fils de Noé. Les lois des fils de Noé, c'est-à-dire des hommes, sont ce qu'on appelle sept commandements, les Sheva Mitzvot, Béné Noirs, les sept commandements des fils de Noé. Pourquoi est-ce qu'on réfère ça à Noach et pas à Adam Harishon ? Parce qu'Adam Harishon en avait six. Et que la septième a été ajoutée après le déluge, disons formellement, après que la Torah ait autorisé les hommes à manger de la viande, alors il y a une septième mitzvah qui apparaît, qui interdit de manger certaines viandes. Quelle est la viande que il est interdit aux goyim de manger ? C'est de la viande arrachée un animal encore vivant. D'accord ? Par exemple, au Moyen-Âge, c'est un truc qui se faisait beaucoup, quand il n'y avait pas encore de frigidaire dans le monde, quand on voulait conserver un gigot de mouton, de cochon, alors on coupait un gigot et on recousait le cochon parce qu'on ne pouvait pas consommer toute la viande à la fois. C'était fait après pour la deuxième patte, la troisième, et puis après on abattait la bête. Et enfin, bon, ça c'est absolument interdit par la Torah, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle Ever Minachai, un organe tiré du vivant. D'accord ? Cette viande est interdite même si, entre-temps, le cochon est mort. D'accord ? Vous avez fait, ah, le cochon est mort, mais non, je peux manger le gigot. Non, parce que le gigot a été enlevé quand l'animal était encore vivant. Voyez-vous ? Bon. Oui. Alors pour le sang, il y a une marloquette chez les Tanaïm, dans la Guémara. Il y a des Tanaïm qui interdisent, il y a un Tanaïm qui autorise. La halakha, c'est que c'est autorisé. Le sang tiré de l'animal vivant est autorisé, bien qu'il y a un des Tanaïm, c'était Rabbi Hanina ben Gamliel, je crois, Rabbi Hanina ben Gamliel, qui interdit. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, le boudin, c'est du sang tiré d'un animal vivant qui est coagulé, c'est interdit d'après Rabbi Hanina ben Gamliel, mais d'après les Chachamim, c'est autorisé. D'accord ? Il y a, par exemple, chez les Bantous, en Afrique noire, il y a une coutume qui consiste à percer la veine du cou d'un cheval encore vivant. C'est très bon, paraît-il, pour la santé. De boire le sang qui est tiré de la veine jugulaire bon. Si y a des personnes sensibles, vous pouvez quitter la salle dans l'immédiat, ce n'est pas grave. Alors, en tout cas, donc, vous avez les sept commandements. Le septième a été ajouté après Noir. Alors, les six commandement, ça veut dire quoi d'abord ? Des commandements. Le commandement, en hébreu, on dit une mitzvah. Oui ? Alors, on peut effectivement poser énormément de questions, mais là, nous allons essayer d'être le plus succinct possible, parce que je pourrais en parler pendant des heures de tout ça. Bon. En tout cas, il y a des commandements. C'est quoi un commandement ? Une mitzvah, c'est quelque chose, c'est un comportement qui est différent d'un simple comportement. Il y a ce qu'on appelle la morale naturelle. Par exemple, ne pas tuer, c'est une chose classique, n'est-ce pas ? Le meurtre est réprouvé par la morale universelle. Le monde entier admet que ce n'est pas bien de tuer. Mais ça veut dire quoi, pas bien ? Le pas bien en question, c'est un pas bien moral ou un pas bien mitzvah ? Par exemple, la Torah nous a révélé L'otirtsar, tu ne tueras point. Tu ne tueras point, mais avant, on tuait. Avant d'arriver au Mont Sinaï, on passait son temps à tuer. Non, on ne tuait pas. Mais on ne faisait pas pour des raisons morales. Après, c'est devenu une mitzvah. La différence entre quelque chose qui est une mitzvah et quelque chose qui ne l'est pas, en tout cas du point de vue du Maharal de Prague, c'est que la mitzvah nous rattache au metzavé, à celui qui a donné la mitzvah. C'est-à-dire, il y a une relation à travers la mitzvah envers le créateur du monde, envers la transcendance, ce qui donne une dimension gigantesque à l'homme. Ça le fait sortir du cercle de la nature. Par contre, si j'accomplis la même chose, mais pour des raisons d'ordre moral, j'acquiers une plénitude humaine, mais pas de plénitude divine. Voilà. Vous avez compris la différence ?
Avant de dire la Torah, vous avez explicite qu'il ne faut pas tuer, c'était, on ne tuait pas pour des raisons morales ou pour des raisons...
Non, non, pour des raisons de mitzvah aussi. Mais alors là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Comment ça, est-ce que ça a changé à un moment ou pas? En tout cas, il y a les sept commandements. Je vais les dire très rapidement pour qu'on se trompe, pour qu'on sache de quoi on parle. Il s'agit de l'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction du blasphème, du meurtre, du vol, de la débauche, de la chair vivante, et l'obligation d'avoir des tribunaux. Voilà. Ça, c'est dans l'ensemble, c'est ce qu'on appelle les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Quelle est la logique pourquoi ces sept-là précisément et pas d'autres? Et quels sont les détails? C'est autre chose. Maintenant, est-ce que les sept commandements en question sont un minimum ou est-ce que ça serait un maximum? Comment? Seulement sept commandements? Vous autres, les Juifs, vous en avez 613 et pour nous, vous nous lâchez un os seulement sept. Certains ont dit non, c'est pas 7 contre 613, c'est 7 contre 10. Et les 10 commandements et les 7 commandements. Ça fait donc une différence déjà un peu moins grande. Mais on peut rentrer également dans le détail de qu'est-ce que recouvrent ces 7 commandements. On découvre que ça recouvre énormément des commandements du judaïsme. Par exemple, l'interdiction de l'idolâtrie. Dans la Torah, c'est 51 mitzvot. D'accord? Donc si vous prenez au sérieux l'ensemble de toutes les mitzvot de Bnei Noach, ça vous fait plusieurs centaines de mitzvot, ça vous en fait au moins 49, d'après mon décompte à moi. Oui, oui, il y a 49 mitzvot en vérité, mais en fait on peut en faire même un peu plus que ça. Bon. En tout cas, je voudrais commencer par un texte important tiré de Baba Kama. Baba Kama, dans la Gemara, à la page 38A, la maîtresse Amoud Aleph. Voilà. Il y a un verset tiré de Habakkuk. Amad, Habakkuk, c'est un des 12 petits prophètes. Amad, rien à voir avec le Rav Kook. Amad vayemoded eretz. Il s'est levé et a mesuré la terre. On parle de Dieu. Dieu s'est levé et il a mesuré la terre. Ra'a, il a vu. Vayater goyim. Alors, le mot vayater n'est pas très clair. On traduit ici. Et il autorisa les nations. C'est-à-dire, Dieu a mesuré la terre, il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? On ne sait pas. Et alors, il a autorisé les nations. C'est assez sibyllin. Alors, il y a plusieurs interprétations qui sont données ici. Une, c'est celle de Rav Yosef. Mara, qu'a-t-il vu en mesurant la terre? Ra'a Sheva Mitzvot, il a vu les sept commandements. Shekiblu alehem bene Noach, que les fils de Noé ont accepté sur eux, velokimum, et qu'ils ne les ont pas accomplis. Amad veetiram lahem. Alors il s'est levé pour les autoriser. C'est-à-dire, il a autorisé les commandements. Ça voudrait donc dire, si on prend ça au sérieux, que le goy a le droit de tuer, de violer, de. Enfin, tout quoi. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il les autorise à devenir des bêtes. La Guémara répond tout de suite, il gourait Idgar, mais c'est terrible cette chose pareille. Imken matzinu hoteniskar. Alors on trouverait que le pécheur aura gagné. Hein? Comment est-ce qu'un pécheur? Alors, voilà, j'ai pas envie de faire une mitzvah, alors je la fais pas. Alors on me dit, bon, dans ce cas, puis tu peux pas la faire, ben voilà, ben, l'interdiction est levée. Ah, pas. Hein? Amar Mar Bere de Ravina. Alors réponse de Mar, fils de Rabbana. L'Omar, c'est bien te dire seulement, Shafilu Mekaimim Otam, que même s'ils les accomplissent, En Mekablim Aleem Sachar, ils ne reçoivent plus de réponse, de récompense. Alors il y a un problème. Ça voudrait donc dire que le goy, il doit quand même faire les sept commandements, mais il n'en reçoit pas de récompense. C'est injuste. J'ai fait quelque chose, pourquoi il n'y aurait pas de récompense? Vous avez compris le problème? Hein? Bon. Ve'atania, Velo ve'atania. Comment non? Et comment alors dans ce cas-là comprendre ce qu'a dit Rabbi Meir? Rabbi Meir Omer, minain shafilu nochri ve'osek batorah she'uke kohen gadol. D'où savons-nous que même un étranger qui étudie la Torah, qu'il est comme un grand prêtre? Talmud Lomar, c'est écrit en toutes lettres. Asher ya'ase otam ha'adam v'chay ba'em, que l'homme accomplirait et en vivrait. Kohanim leviim v'israelim lo ne'emar ela adam. Il n'est pas dit des prêtres, des lévites ou des israélites, mais il est dit l'homme. Halamadeta, cela donc t'enseigne. Shafilu nochri v'osek ba'Torah. Que même un non-juif qui étudie la Torah, il est comme un grand prêtre. Alors tu m'as dit qu'il ne reçoit pas de récompense, et là tu me dis qu'il est comme le Kohen Gadol. Donc il a sa récompense de Kohen Gadol. Amré, on a répondu. En mekablim aleim sachar ki mitzuve ve'ose, et là ki mishenom mitzuve ve'ose. Ils reçoivent une récompense, mais comme la récompense de quelqu'un qui n'a pas l'obligation de faire, et non pas comme celui qui à l'obligation de faire. Dehama Rabbi Hanina, car Rabbi Hanina enseignait, Gadol ametsuve verose, mimicheno ametsuve verose. Il est plus grand celui qui a reçu l'ordre et qui fait, que celui qui n'a pas reçu l'ordre et qui fait. Ah bon? Où est la justice là-dedans? Alors, tu dis, il reçoit quand même une récompense, mais pas aussi grande qu'avant. Pourquoi? Il a accompli pourtant. Vous avez compris le texte? Bon, alors je vais compliquer ça un peu. Il y avait un juif au 1er siècle qui a dit que les commandements, les mitzvot, c'est une malédiction. N'est-ce pas? Et il a même dit, le Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. C'est ce qu'a dit Paul. Paul, c'est le fondateur du christianisme. Ouais, ouais, c'est ça. La route de Damas. Bon, et donc il disait que la Torah, les lois, des mitzvot, sont une malédiction. Pourquoi c'est une malédiction? Parce que si il y a des mitzvot, il y aura certainement des averot. Je fais un commandement, il y aura également des transgressions. S'il y a transgression, je suis rejeté par Dieu. Donc le fait d'avoir reçu une mitzvah va obligatoirement m'amener dans une situation dans laquelle, puisque je suis pécheur, d'une situation dans laquelle je serai rejeté par Dieu. Conclusion, la mitzvah est une malédiction. C'est QFD. Mais non, ça veut dire ce qu'il fallait démontrer. Bon. Et donc, Alors, après que Paul ait dit ces choses-là, dans la première communauté de chrétiens qu'il y avait à Antioche, ils ont commencé à vivre une vie de débauche. Alors Paul, effrayé, leur envoie une lettre, une épître, dans laquelle il a dit, mais enfin c'est quoi ces histoires? Alors ils lui disent, mais c'est toi qui l'as dit, puisque tout est permis, puisque la Torah est abolie. Et il leur a répondu, tout est permis, mais tout n'est pas convenable. Ça veut dire quoi dans le langage de la Gemara, derer eretz. Ça veut dire que les goyim en question ont voulu continuer à accepter la Torah, mais non pas en tant que mitzvah. C'est-à-dire que la condition de ma relation envers Dieu ne soit pas la mitzvah, mais autre chose, ce qu'ils appellent la foi. C'est la foi, c'est un truc très chrétien, il faut savoir ce que ça veut dire. Mais enfin, la foi, c'est ça qui sauve, et non pas les actes. Mais les actes, il faut les faire. Il y a une morale chrétienne. Mais c'est de la morale, c'est plus une mitzvah. Exactement ce que dit la Gemara. Ils n'ont plus voulu des mitzvot en tant que mitzvot, mais ils veulent continuer en tant que celui qui fait sans commandement. Ils veulent gagner le paradis. Voilà. Et donc, alors comment, si, mais imagine par exemple un goy lit ce texte de la Gemara, il se dit, oh là là, c'est bien embêtant. Comment faire pour que les actes que je fais soient considérés comme des mitzvot et que j'en reçoive donc la récompense qui revient à celui qui fait une mitzvah. Oui, mais si lui il veut, vient un goy, par exemple monsieur François Dupont, ou bien par exemple Christian Lévesque, hein, ça fait bien. Bon, il te dira, voilà, ou bien monsieur Georges Cardinal. Et il te dira, voilà, monsieur le rabbin, je voudrais accomplir les lois de la morale naturelle, mais je veux que ça soit considéré comme une mission. Que dois-je faire? Alors, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de se convertir au judaïsme. Mais alors là, c'est un paquet, parce qu'il y a 613 mitzvot à la fois. Comprenez que ça ne marche pas toujours. Il y avait une fois un curé qui a dit à Manitou, Zichrono Livracha, il lui a dit, écoutez, j'ai découvert que le judaïsme, c'est vrai, mais je ne peux pas me convertir. Il dit, mais pourquoi? Ben parce que je suis alsacien, et que mon plat national, c'est la choucroute. La choucroute, c'est des saucisses de porc. Alors, alors dit, oui, alors Manitou lui dit, oui, il y a aussi de la choucroute cachère. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que ça fait partie... Comment? Non, c'est une histoire vraie. C'est vrai, c'est Manitou qui m'a raconté. Et c'est pour vous dire que... Comment? Oui, justement. C'est-à-dire que la choucroute fait partie... On est ce que l'on mange. Ça fait partie de sa culture. Ça fait partie de son être. Et comment? C'est une identité. Il y a les choucroutiens, par exemple. Voilà. Et il y a les choucroutois, ça dépend dans les villages, etc. Il y en a, par exemple, même des Alsaciens qui ne mangent pas de choucroute parce qu'ils sont tombés dedans étant petits. Mais, quoi? C'est une autre histoire. Et, pardon, excusez-moi. Mais il veut quand même que ce qu'il fait soit considéré comme une mitzvah. Alors il doit faire un acte d'acceptation de la mitzvah. C'est, il doit revenir à l'état antérieur de cette autorisation, puisque la Guémara dit qu'il y a un moment de l'histoire où la mitzvah a été abolie en tant que mitzvah. Donc pour qu'il revienne à ce statut-là, il doit faire un effort particulier, d'après la halakha, se présenter devant un tribunal et déclarer solennellement qu'il accepte les sept commandements noachid en tant que mitzvah.
Mais attendez, ça veut dire quoi, la mitzvah a été abolie en tant que mitzvah? Ce qu'il a dit Paul, là, c'est...
Non, alors c'est bien... Non, c'est ce qu'a dit Paul, il a voulu faire ça pour toute la Torah. Pour les juifs aussi. D'accord? Mais d'après la Gemara, c'est, c'est très ancien. C'est bien avant que la Torah soit donnée. C'est pour revenir à ta question de tout à l'heure. Avant que la Torah soit donnée, déjà, les mitzvot, c'est ta question. Déjà avant que la Torah soit donnée, il y a eu abolition des Sheva mitzvot en tant que mitzvah. Mais, à titre individuel, eh bien, on peut très bien recevoir les mitzvot si on se présente devant un tribunal. C'est une sorte de demi-conversion comme ça. Bon. Alors, tout cela, bien expliqué dans la Gemara. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas parlé de ce que dit Rabbi Meir sur le non-juif qui devient grand prêtre, etc. Il y a énormément de diyukim qu'on pourrait faire là-dessus, de subtilité, mais ce que je voudrais, c'est rentrer directement de plein pied dans ce que dit le Rambam. Le Rambam, dans le Mishneh Torah, dans le 14e volume, qu'on appelle Melachim, dans la partie qu'on appelle Shoftim, dans la partie Melachim, au chapitre 8, 9 et 10, parle longuement des lois noires. Une des choses qu'il affirme, c'est ceci. Moshe Rabbeinu lo inhil la Torah va mitzvot ila li Israël. Moshe Rabbeinu n'a donné en héritage la Torah et les mitzvot qu'à Israël. Sheneemar, Moracha, Kilat Yaakov, ainsi qu'il est dit, c'est l'héritage de l'assemblée de Jacob. Ulchol arotzelit gayer mishara umot, et à tout celui qui veut se convertir du reste des nations. Sheneemar, ainsi qu'il est dit, Kachem Kager, comme vous, comme l'étranger. C'est-à-dire l'étranger qui veut se convertir, pas de problème. Aval, Michelo Ratsa, El Kofinoto, les Kabel Torah Mitzvot, mais celui qui n'est pas intéressé, on ne l'oblige pas à accepter la Torah et les Mitzvot. De même, Moshe Rabbeinu a donné l'ordre, entendu de la bouche de la gloire, la kouf et kol ba'eha olam, d'imposer à tous ceux qui viennent dans le monde, c'est-à-dire à toute l'humanité, les kabel mitzvot shinitztavu bene noach, d'accepter les commandements qui ont été ordonnés aux fils de Noach. C'est-à-dire ça, il y a une obligation d'imposer les Sheva Mitzvot Bnei Noach à l'humanité tout entière. Vechol Michelo Yekabel, et tout celui qui ne les accepte pas, Yehareg, sera mis à mort. Vehamekabel Otam, le Ramban n'est pas d'accord sur ce point. Vehamekabel Otam, et celui qui les accepte, Huanikra Gertoshav Bechol Makom, c'est lui qu'on appelle le Gertoshav dans tout endroit. Vetzarich le kabel alav bifne shelosha chaverim. Il doit accepter ses commandements en présence de trois sages. Donc il y a un tribunal qui doit recevoir le ger toshav en question. Alors maintenant, il y a tout un petit problème, c'est que le ger toshav, c'est un statut qui n'existe qu'en Eretz Israël et qui n'est appliqué qu'à l'époque où il y a le Yovel. Oui. Le Yovel, le jubilé. C'est l'année, une fois tous les 50 ans, où les héritages reviennent à leur propriétaire enterré, etc. Tout ça n'est pas appliqué de nos jours, pour des tas de raisons. Et ce n'est qu'à l'époque où c'est le jubilé est en cours que la loi du ger toshav est en cours. Alors, donc, dans ce cas-là, de ce point de vue-là, ça serait donc impossible de recevoir un non-juif devant un tribunal. Or, je sais qu'il y a des rabbins qui acceptent aujourd'hui, devant un tribunal, des non-juifs en tant que ben noir. D'accord ? Je sais même qu'il y a dans l'assistance quelqu'un qui a même assisté à ce genre de procédure. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être débattu. Kol amekabel sheva mitzvot, tout celui qui accepte les sept commandements, venizhar la asotam, et fait attention de les accomplir. Vous avez donc remarqué qu'il y a ici deux éléments. Accepter et accomplir. C'est pas la même chose. Quand j'accepte, ça veut dire que je reconnais que c'est la législation qui s'impose à moi. Venizhar la asotam. Mais après, il y a aussi l'accomplissement. C'est un des justes parmi les nations. Veyeshlo, Helek la Olam Abba. Il a part au monde à venir. C'est-à-dire comme Israël. Vehu, mais c'est à condition. Sheyekabel Otam, qu'il les accepte. Veyase Otam, et les accomplisse. Mipene Shetziva Baem Akadosh Baouchu Batora, parce que Dieu a ordonné de les accomplir dans la Torah. Veodi Anu, allié de Moshe Rabbeinu, et nous a annoncé par l'intermédiaire de Moshe, notre maître, chez Bene Noach Mikodem Istavulaem, que les fils de Noé avaient été précédemment ordonnés de le faire. La phrase du Rambam est extrêmement embrouillée. Ça voudrait dire, le goy doit admettre que les sept commandements lui viennent de Dieu dans la Torah, et que ça nous a été révélé par Moshe, que précédemment déjà les goyim les avaient acceptés. Cette phrase pose plusieurs questions, dont je ne débattrai pas maintenant, mais enfin c'est comme ça qu'il dit. Mais s'il les a accomplis parce que sa raison lui dit de le faire, c'est ce qu'on appelle donc la raison naturelle, ou bien la morale naturelle, ou la morale universelle, enze ger toshav, ce n'est pas un ger toshav, veno mechasideo mota olam, et ce n'est pas un des hommes pieux des nations, ela mechachmem, mais c'est un de leurs sages. Et alors, si c'est un de leurs sages, qu'est-ce que ça veut dire? Pas très clair. Il y a tout un texte du Rav Kook, que je vous invite à lire là-dessus, qui débat de ce que veut dire exactement le Rambam. Enfin, je veux dire, vous faire déjà une distinction entre le chassid et le hacham. Le chassid, c'est celui qui reconnaît le caractère révélé des mitzvot, et le hacham, c'est celui qui reconnaît le caractère évident, pour la raison, raisonnable, des mitzvot. Vous avez compris? Ça donne deux statuts, et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne vous fais ici que les titre des chapitres. D'accord ? Ça vous permettra de continuer l'étude. Pourquoi je vais si vite ? Parce que je suis très intéressé par un point de détail dont traite le Rambam par la suite, et avec lequel je suis en désaccord avec l'interprétation des Lubavitch. Vous savez que le rabbi de Lubavitch disait qu'il fallait enseigner les sept commandements noachides au goyim. Et jusqu'à ce jour, vous avez des chassidim de Chabad qui se promène un peu partout dans le monde et qui enseigne les sept commandements aux non-juifs. Vous avez même, par exemple, dans les villes de Naplouse et de Hebron, vous avez, avec la photo du rabbi, avec les sept commandements en arabe, c'est affiché partout. Et c'est d'ailleurs respecté par les arabes. Oui ?
Ça va leur enseigner les lois du noir, ils ne peuvent pas devenir plus noirs.
Ils le peuvent, tout à fait. J'ai dit qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, il y a un devoir donc d'enseigner aux goyim leur devoir, de toute manière. Bon. Oui.
Nous, on a le devoir, les arbres. Mais eux, ils en suivent, c'est leur devoir.
Alors justement, là il y a tout un problème. Est-ce que ces lois, ils les ont reçues du temps de Noé, ou est-ce qu'ils les ont reçues à travers Moshe dans la Torah? N'est-ce pas? Alors, il semblerait que d'après le Rambam, c'est une hypothèse, hein, ça voudrait dire qu'elles ont été données deux fois. Elles ont été données une fois du temps de Noé, et puis après ça revient du temps de Moshe.
Donc c'est un rappel.
C'est un rappel après abolition. Parce que, par exemple... Oui, non, avant Moshe. Par exemple, pourquoi est-ce que nous accomplissons le commandement de la circoncision? Est-ce que c'est à cause d'Abraham ou est-ce que c'est à cause de Moshe? C'est un débat dans la Guémara, dans Maseret Roulin. Le Rambam dit très clairement, ce n'est pas à cause d'Abraham, c'est à cause de Moshe. Parce que Moshe a écrit dans la Torah qu'Abraham avait reçu l'ordre. Oui, exactement. Bon. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que un non-juif qui accepte les sept commandements noachides peut en faire plus que sept? Oui? Non? Il n'a pas le droit? Il a le droit? Oui? Il peut?
C'est juste un minimum, après on peut rajouter.
C'est juste un minimum, et après on peut en rajouter. Et à toi, tu dis que Chabad, ils disent qu'on ne peut pas. Oui? Il n'a pas le droit de faire Shabbat, tu dis. Oui. Ils ont le droit de faire Shabbat. Oui. T'en sais rien. Vous savez qu'il y a également des textes dans la Gemara qui parlent de 30 commandements noachides. Voilà. À part ça, vous savez qu'il y a une marloquette dans Maseret Sanhedrin pour savoir quelle est la définition exacte du Ger Toshav. Il y a là-bas trois opinions. La première opinion qu'on a, c'est celle de Rabbi Meir. La deuxième, celle de Chachamim, et la troisième, celle de Acherim. Donc vous avez là-bas trois opinions, Rabbi Meir, Chachamim et Acherim. La halakha, c'est comme Chachamim, qui disent, sept commandements, c'est ça qui fait le Ger Toshav. Mais il y a deux autres opinions, celle de Rabbi Meir et celle de Acherim. Rabbi Meir dit qu'il suffit qu'il ne soit pas idolâtre. Et Acherim disent que, au contraire, le Ger Toshav, c'est celui qui accomplit toutes les mitzvot, sauf l'abattage rituel. Et il mange de la viande pas cachère. C'est tout. Alors ça voudrait dire que Acherim, lui, en tout cas, ils veulent bien, l'opinion de Acherim, c'est que les goyim peuvent en même faire en faire plus. Est-ce que ça voudrait dire que les chachamim, qui disent sept commandements, ne parlent que d'un minimum ou d'un maximum? Ça serait agrandir énormément la marloquette entre Acherim et les chachamim, par exemple. Ça, c'est un argument tiré du Mishnah Brura. Mais là, je voudrais entrer dans l'analyse du texte de Maïmonide, de Rambam, et voir exactement ce qu'il dit. Je lis ici, dans Ilchot Melachim, Perek Yud, Alacha Tet. Goy She'asak Batora. Un non-juif qui a étudié la Torah. Hayav Mita. Il est digne de mort. Loya Asok, et la Becheva Mitzot Shelan Bilvad. Il ne peut s'occuper que des sept commandements qui le concernent. Vechen, de même. Goy Sheshavat, un non-juif qui a pris un jour de repos. Afilu Beyom Yimotachol, même dans un jour de semaine. Imasaaou Leatzmo Kemo Shabbat, s'il l'a fait comme le Shabbat. Hayav Mita, il est passible de mort. Ven Sarik Lomar, Imasa Moed Latsmo. Il n'est même pas nécessaire de dire que s'il a fait une fête. Klalo Shel Davar, la règle générale. En Manichim Otam Le Chadesh Dat. On ne les laisse pas inventer une religion. Vela Asot Mitzvot, et faire des mitzvot. Le Atzman Midaatan. Pour eux-mêmes, selon leur propre opinion. Et là, mais. Oye Ger Tzedek Tikabel Kola Mitzvot. Soit il devient un vrai converti. Et qu'il accepte donc toutes les mitzvot. Oh, il y a un mode de Torato, velo si velo igra. Ou bien qu'il reste uniquement dans sa loi et ni n'ajoute ni ne retranche. Veimasak batora o shabbat o chidesh davar. Et s'il a étudié la Torah ou qu'il a fait le shabbat ou qu'il a inventé quelque chose, makinoto, on le frappe. Veonchinoto, et on le punit. Ou modinoto shuhav mitazi, et on lui annonce qu'il est coupable de mort pour ça. Aval et non érag, mais on ne le tue pas. Un avertissement un peu rude.
chou.
Ouais. J'en sais rien, j'en sais rien. En tout cas, on lui dit que. Ça dépend s'il est sous notre domination, oui. C'est aussi un débat. Bon. Alors maintenant, je vais vous dire. Non, je ne veux pas rentrer dans le détail de ça. Non, tu as de très belles questions, mais je veux pas rentrer dans le détail, parce qu'après, j'en finirai plus. En tout cas, donc, nous avons étudié une halakha assez violente. Maintenant, je passe à la halakha qui vient juste après. La halakha qui vient juste après dit exactement le contraire. Ben Noach, sheratza la'asot mitzvah mishar mitzvot haTorah kedei lekabel sachar. Un fils de Noé qui veut accomplir une mitzvah des autres mitzvot de la Torah, c'est-à-dire en plus des sept, afin de recevoir sa récompense. En monain oto la'asota kilchata. On ne l'empêche pas de l'accomplir dans le détail de la halakha. C'est-à-dire, il veut faire le Shabbat, il fait. Il veut prendre un loulav, il peut. Il veut jeûner à Kippour, il peut.
Mais qu'est-ce que c'est dans un but précis? Tout à l'heure, c'était un goy, et c'était pas dans le
but. Dans le but, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire Ben Noach. Exactement, vous avez compris. Le premier mot de la première halakha, c'était goy, et là, c'est Ben Noach. Ça veut dire qu'il y a deux statuts d'humanité. Il y a le goy, c'est-à-dire, il n'a pas accepté sur lui de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas violer, de ne pas blasphémer, etc., etc. Il a une société... Non, mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. C'est un barbare. C'est une bête sauvage. Une bête sauvage, il va encore prendre le loulav. Ça ne va pas la tête. On le laisserait agiter un loulav. Hein? C'est exactement Caïn. Il fait un sacrifice alors qu'il est assassin. On dit, attention, tant que tu ne t'es pas acquitté de tes devoirs minimaux, qui font que tu es un minimum d'humanité, on ne te laisse pas en faire plus. Maintenant, une fois que tu as accepté, toutes les portes sont ouvertes. Vous avez compris? C'est-à-dire que pour le Rambam, les sept commandements noachides sont un minimum, tarish, sont un minimum et non pas un maximum. C'est quelque chose de très important, sur lequel je suis en désaccord avec quelques rabbins Chabad en Houtz Laaretz, et ça pose des problèmes à différents noachides qui sont en contact avec moi. Oui. Il voit ça autrement. Et donc, s'il y a ces... Oui. C'est-à-dire que pour le rabbi de Chabad, le statut du Ben Noach n'existe pas encore, justement à cause de l'histoire du Yovel. Et donc, il ne reste que Goy. Mais c'est... En fait, il y a également un problème, c'est que l'opinion des Tosfot n'est pas celle du Rambam. Et là, il faudra entrer évidemment dans les détails. Mais en tout cas, vous avez bien vu que dans la halakha ici, le Rambam fait une distinction très claire entre celui qui n'a pas accédé au minimum, je dirais même moral, d'humanité, et celui qui a déjà accédé à cela, et alors dans ce cas-là, il étend le champ de son noachisme. Et alors maintenant, à cause de tout cela, il y a, disons, ces halakhot-là ont été, ont commencé à être en vigueur, il y a quelque chose comme un peu plus d'un siècle, 120 ans à peu près. Il y avait en France un chrétien du nom de Aimé Palière. Aimé, c'est son prénom, Palière, nom de famille. Aimé Palière était un homme profondément catholique, profondément religieux, et qui un jour est entré, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait des gaffes de ce genre, il est entré dans une synagogue. Il s'est trompé, il est entré dans une synagogue, mais alors tenez-vous bien, à Kippour, au moment de la Neïla. Alors là, il en était paf, comme ça. C'était à Lyon, en France. Et alors, il s'est dit, il était très fortement impressionné, il a compris que la Shekhina était encore en Israël, et etc. Ça a introduit chez lui une révolution. Et il a envisagé de se convertir. Il est allé voir un rabbin français qui lui a dit « Non, je ne te convertis pas ». Il est parti en Italie, à Livourne, en Toscane, chez un rabbin, le rabbin Eliaou Ben Amozeg, qui lui a dit « J'ai mieux. Ne vous convertissez pas, monsieur Palière, j'ai mieux pour vous. Quoi ? Ben, j'ai pour vous le noachisme. Vous allez devenir le grand prêtre de la religion universelle. Et donc, un des premiers à avoir pensé appliquer ça de manière réelle, c'était Rabbi Eliaou ben Amozeg, qui était un très grand hacham à Livourne. En fait, c'est devenu, et c'est pour cela d'ailleurs que Rabbi Eliaou ben Amozeg a écrit un livre en français, qui s'appelle Israël et l'humanité, pour expliquer ce que c'est que le statut du Noachide. Pour tout vous dire, l'histoire personnelle d'Aimé Pallière a été une catastrophe totale, c'était un échec absolu. Il est devenu il n'a pas vraiment fait ce que lui a dit le Rabbi Amozeg. Il est devenu quelque chose à la limite du christianisme et du judaïsme. Il est devenu le prédicateur dans la synagogue de l'Union libérale de Paris pour expliquer aux juifs qu'ils devaient respecter le Shabbat. Un truc comme ça.
C'est normal,
puisqu'il
voulait se convertir.
Oui, mais ça n'a pas très bien marché. Enfin bref, sur sa tombe, il s'est fait enterrer dans un cimetière chrétien avec un kaddish d'un rabbin. Enfin, truc absolument incroyable.
Voilà. C'était le premier à vouloir.
Ça a été une des premières tentatives. Il y a eu d'autres tentatives de ce genre, mais en se disant la plus célèbre, c'est celle-là.
Hein? Ça
arrive très tard. Au 19e siècle. Je vais vous raconter, il y a quand même eu une histoire. Non, nous avons d'autres témoignages. Par exemple, le Hida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Non, c'était pas un Marocain, il était d'Eretz Israël. Il était de Hebron. Il est parti en Europe. Il s'est promené un peu partout en Europe pour trouver des manuscrits, etc. Il a fait un travail gigantesque. Entre autres, il est allé à la cour d'un roi de France du nom de Louis XVI. Vous avez peut-être entendu parler. Non, mais il avait encore la tête sur les épaules à l'époque. Il l'a rencontré à Versailles. Il raconte d'ailleurs sa rencontre avec le roi. Enfin, c'est assez intéressant. Et il raconte ses contacts avec un noble français qui lui a demandé s'il pouvait être Noachide. Alors il a dit, si tu ne crois pas en Jésus, etc. Enfin bref, il lui a fait l'état de conditions, mais enfin... Il y avait un Noachide comme ça parmi les nobles français à l'époque, sous les instructions du Hida. Donc nous avons des témoignages comme ça. C'est extrêmement disséminé. Dans la Guémara également, il est question d'une reine, la reine de Perse, qui s'appelait Ifra Hormiz, qui était la mère du roi Chabor, qui elle aussi était comme ça. Enfin, il y avait un peu de tout. Mais c'était des phénomènes extrêmement isolés. Et puis... il y a eu d'autres, avec disons l'apparition du sionisme et de l'État d'Israël encore plus, il y a eu un regain d'intérêt extrêmement fort parmi les nations pour le peuple juif, le judaïsme et l'État d'Israël. Il y a eu également la campagne du rabbi de Lubavitch dont nous avons parlé tout à l'heure. Et puis de nos jours, il y a un intérêt réel chez de nombreux non-juifs pour l'option du noachisme. Alors ça, il y a eu, ils se sont adressés, entre autres, au Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha, qui est des grands rabbins d'Israël. Eh bien, parce que pour eux, c'est le message d'Israël pour l'humanité. Ils se disent, Israël a quelque chose à nous dire. Comme dit le prophète Isaïe, Ve'aya bayomahu, gadol yehar bet Hashem beroshe harim, ce sera qu'en ce jour, la montagne de Dieu sera grande. Le temple, la maison de Dieu sera grande au sommet des montagnes. Venissa migevaot, elle dépassera les collines. Venaharu elav kolagoyim, et y arriveront en fleuve, y afflueront toutes les nations. Veameru, ils diront, lechou venaale el har Hashem el bet Elo Yaakov, allons, venons vers la montagne de Dieu, dans la maison du Dieu de Jacob. Venelcha be orchotav. Qui nous enseigne ses chemins pour que nous cheminions dans ses sentiers, qui mitzion tetzetora, car de Sion sort la Torah, ou dvar Hashem Yerushalayim, et la parole de Dieu de Jérusalem. D'accord ? C'est ce que dit le prophète. C'est-à-dire la fameuse phrase qui mitzion tetzetora, c'est une parole des goïms qui attendent qu'une Torah leur vienne d'Eretz Israël, de Tzion. Alors de nos jours, ce phénomène commence à apparaître. Dans plusieurs endroits de toute la planète, ça commence à marcher. Et alors, le Rav Mordechai Eliyahu s'en était occupé, le Rav Menachem Burstein aussi, et moi-même, récemment, j'ai fondé une organisation internationale qui s'appelle Brit Olam, ou le Centre Noachide Mondial, et nous sommes en contact avec, pour l'instant, 74 pays différents, mais ça comprend entre autres 12 communautés organisées, et de plus en plus, nous recevons des messages avec des questions de halakha permanentes. C'est absolument incroyable. Récemment, il y avait un noachide japonais qui est venu me voir à Jérusalem. C'était un jour de Shabbat. Alors, il m'a demandé s'il y avait un hérouf parce qu'il voulait prendre son sidour de l'hôtel à ma synagogue, hein, s'il pouvait, etc. Enfin, Tas de problèmes. Rigoler, ils ont des tas de problèmes, ces gens-là, parce que la manière dont l'abattage des bêtes se fait aux États-Unis, par exemple, parfois la bête est encore vivante quand on lui arrache des morceaux, enfin, des trucs absolument incroyables, sans parler des problèmes de relations avec leurs familles, qui sont souvent des chrétiens, des musulmans, des trucs de ce genre. Enfin, bref, ça pose énormément de problèmes. Et, je veux dire qu'aux Philippines, actuellement, il y a une communauté de 700 noachides qui ont 9 synagogues à eux, dans lesquelles ils font des prières au Dieu d'Israël, etc. Oui. C'est une sorte de religion, c'est du judaïsme de la périphérie. Comme m'a dit une fois une indonésienne qui est venue me voir pour s'intéresser à ça, elle me dit, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire appartenir à la sainteté de l'extérieur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a ce genre de statut. Alors non, maintenant...
Je pense que les gens qui reconnaissent ça,
oui,
qui reconnaissent Israël, qui reconnaissent le Dieu d'Israël, mais...
ne veulent pas se convertir.
Mais, voilà, c'est-à-dire, ils se disent, nous, on est un peuple, on doit être dans le chemin de ce peuple, bon, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas devenir juifs, quoi.
Disons comme ça, je les comprends, moi. Je les comprends. Tu sais ce que c'est mettre les téfilines tous les jours? Non, à part ça, c'est souvent très problématique. Par exemple, ça peut déchirer des familles. Vous comprenez? L'option de la conversion aujourd'hui est souvent très problématique pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui veulent se convertir, mais après, ça crée des problèmes. Ils ne sont pas toujours faits pour ça. À part ça, comme j'ai demandé une fois à un des dirigeants noachides de Hollande, je lui ai dit, mais enfin, pourquoi tu ne te convertis pas au judaïsme? Il m'a dit, parce que je suis hollandais. C'est très fort. Ça veut dire que l'identité nationale est quelque chose de très fort, l'identité nationale ou culturelle, quelque chose de très fort chez les hommes. On ne peut pas mépriser ça. Et donc, si Dieu a fait que l'humanité est faite de nations, alors ça veut donc dire qu'il y a des nations. C'est ça? D'ailleurs, ce Hollandais était très fier du fait que c'est un Hollandais, Grotius, qui a inventé le droit international. Il a dit, vous voyez bien, monsieur le rabbin, nous avons commencé le noachisme il y a 400 ans, déjà, avec le droit international inventé par un Hollandais. C'est comme ça qu'il voit les choses. Alors, comme a dit ce même Hollandais, quand on me demande, mais est-ce que c'est pas être un juif de seconde zone, je leur réponds, me dit-il, ceux qui ne veulent pas, ben, ils peuvent très bien se convertir. D'accord? Je vais raconter une petite histoire intéressante. Il y a un rabbin de mes amis qui était à Dallas, au Texas. Il est rentré dans une église, invité par le curé et la paroisse. Comment? Il a reçu l'autorisation de rabbanim. Et il leur a dit, ils lui ont demandé de leur parler de ce que pense le judaïsme du christianisme. Alors lui, sans se gêner, il discute, il leur explique qu'est-ce que c'est. Il donne une très belle conférence, très bien faite. Il leur explique qu'est-ce que le judaïsme pense du christianisme. Et alors à la fin, la paroisse se dirige vers le pasteur ou le curé, je ne sais plus très bien, et leur dit « What do you say about it ?» Qu'est-ce que vous dites de ça? En accent texan, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. « What do you say about it ?» Et il a répondu « He is right. He is right. » Et donc, ce jour-là, ils ont abandonné le christianisme, ils ont transformé leur église en centre noachide, et ça a continué d'exister. Il y a une histoire absolument vraie. Il y a actuellement 200 parmi ces communautés qui sont passées devant le tribunal rabbinique pour devenir béné noir. Ils ont des certificats, tout ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui vont de plus en plus. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Il y a également une pensée stratégique derrière tout ça. C'est pour ça que j'essaie d'intéresser pour ça les ministères israéliens, entre autres le ministère du Premier ministre. C'est qu'il y a actuellement il y a aujourd'hui une confrontation d'ordre universel au niveau de la planète. Ça s'appelle l'affrontement des blocs, BLOC, sans H. L'affrontement des blocs, le bloc occidental, le bloc islamiste, l'extrême-orient, etc. Et évidemment, la confrontation n'est pas seulement d'ordre politique et économique, et même militaire, elle est également d'ordre spirituel et idéologique. Et si nous voulons ne pas être écrasé dans cet affrontement universel, il faut également avoir un discours positif qui doit sortir d'Israël. Ce discours existe, il est dans la Gemara, il est dans le Rambam, il est dans la Halakha. Il n'y a pas de raison de ne pas commencer maintenant à dévoiler ces choses-là, étant donné que ça fait partie du processus de la Géoula. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.